France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le jeu des 1000 euros est à l'Audev cette semaine et c'est donc le département de l'Hérault qui est à l'honneur dans les carnets de campagne. Avec des initiatives positives, des solutions, des bonnes idées et des gens géniaux à Montpellier et dans les environs. Aujourd'hui, on s'intéresse à un journal local qui assure son indépendance. La Gazette de Montpellier devient une coopérative, les salariés prennent le pouvoir. Et puis, à une application qui transforme les dons d'objets entre particuliers en de l'argent pour des associations. L'application s'appelle Koa. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Et nous parlons donc d'abord de ce journal qui organise sa survie et son indépendance. La Gazette de Montpellier existe depuis presque 40 ans. Elle a aussi une petite sœur à Nîmes, la Gazette de Nîmes. C'est un hebdomadaire d'info locale qui se concentre notamment sur la vie culturelle, sur le programme des sorties, mais qui aborde aussi l'actu politique et économique. La Gazette va devenir une coopérative. Autrement dit, le journal va appartenir à ses lecteurs, lectrices et journalistes. Bonjour Mélanie Bulan.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes la rédactrice en chef de la Gazette de Montpellier. Pourquoi avez-vous décidé de devenir une société coopérative ?
En fait, l'idée vient des fondateurs qui ont décidé de passer la main. Ils ont presque 75 ans. Ils ont créé le journal, vous l'avez dit, il y a presque 40 ans, en toute indépendance. Et l'idée, c'était que les salariés puissent reprendre la main. Mais pas que, parce que les lecteurs peuvent participer au projet, les associations, voire même des entreprises, tous ceux qui s'intéressent à la Gazette et qui ont envie de continuer à la faire vivre, peuvent participer dans ce modèle coopératif où chacun aura la possibilité de participer à la vie du journal. L'intérêt d'une SCIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif par rapport à une SCOP, qui est le modèle un peu plus classique, c'est que ça nous permet d'associer d'autres personnes que les salariés, et donc en l'occurrence les lecteurs.
Donc tout le monde peut acheter une part sociale, elle coûte 1000 euros, c'est ça ?
Exactement, 1000 euros, on peut en prendre autant qu'on veut, mais c'est vraiment une participation à une voix.
Et ces 1000 euros donnent lieu à une déduction fiscale, je crois.
Oui, tout à fait. 50% pour les particuliers. Donc, si vous donnez 1000 euros, vous ne versez réellement que 500 euros. Et c'est 25% pour les entreprises, puisqu'il s'agit d'une entreprise de presse dans laquelle elles peuvent donner de l'argent.
Voilà, quel que soit le nombre de parts sociales achetées, chaque personne dispose d'une voix au moment de prendre des décisions pour la coopérative.
Exactement. Là, on est en train de faire les statuts. On n'a pas de projet encore défini parce qu'on consulte en fait à la fois les salariés et tous les coopérateurs qui sont intéressés. On a eu une première réunion avec les futurs coopérateurs il y a deux semaines pour en discuter. C'est d'ailleurs assez émouvant parce qu'on a pu vraiment avoir des retours sur les liens en fait que le lecteur a noué avec la Gazette, comment il la lise, comment il l'utilise pour sortir. C'était assez émouvant.
C'est une façon d'éviter d'être racheté par un grand groupe aussi. On sait que la concentration des médias est dans l'air du temps.
Oui, exactement, y compris dans la presse locale, évidemment. Oui, l'idée, c'était de ne pas être noyé, en fait, de ne pas être racheté par un groupe de PQR ou autre, et de vraiment conserver notre indépendance qu'on a depuis plus de 35 ans.
La PQR, je le précise, c'est la presse quotidienne régionale. Alors la Gazette, ce sont 40 salariés entre Montpellier et Nîmes. Qu'est-ce que ça va changer pour le personnel, ce nouveau statut ?
A priori, pas grand-chose finalement. Le statut change pas notre travail au quotidien. On continuera de faire le journal chaque semaine. La ligne éditoriale va être sacralisée, si je puis dire. On pourra pas influencer la ligne éditoriale du journal. Et d'ailleurs, on fera aussi attention dans le choix des coopérateurs à ne pas que les collectivités ne puissent pas participer pour garder cette indépendance. Et l'idée, c'est de continuer à chroniquer la vie de la ville, de Montpellier, de l'Hérault, de Nîmes pour la Gazette de Nîmes. Il n'y a pas de changement majeur, si ce n'est que ce sera participatif et donc chacun pourra donner son avis, y compris les lecteurs. Et donc, il y aura plus de liens, on va renforcer ce lien avec le lecteur.
Quelles sont les valeurs de ce journal, Mélanie ?
L'indépendance, on en a parlé, c'est vrai que c'est très important pour nous qu'on puisse continuer à faire notre travail comme on l'entend. On est très attaché au papier, on n'est pas du tout dans une stratégie de web first comme peuvent l'être les autres médias, c'est-à-dire de tout miser sur le numérique. Nous, on adore le papier, on veut continuer à faire un journal papier. Et puis après, On essaye de parler des gens d'ici, comme on dit dans la Gazette, les gens qui font la ville au quotidien, les belles initiatives comme vous pouvez le faire dans le carnet de campagne, de mettre en valeur tous ces gens qui font la ville au quotidien.
Vous diriez que le papier a d'autant plus de valeur quand on aborde l'info locale ?
Moi, il me semble que oui, puisqu'il y a vraiment cet attachement aux gens à l'achat du journal, à le consulter pour savoir ce qu'ils vont faire de leur sortie du week-end, à s'informer en lisant, en prenant un verre en terrasse. Pour moi, il y a un attachement au papier ici, alors peut-être plus en local qu'au national, ça, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, on le ressent ici, cet attachement.
Combien coûte le journal, au fait ?
3 euros à Montpellier et 2 euros à Nîmes.
C'est important pour vous aussi de maintenir ce prix de vente ?
Oui, on a dû l'augmenter, hein, je ne vous le cache pas, suite au Covid notamment. Mais 3 euros, voilà, ça reste un prix qui me semble raisonnable pour les 64 pages que nous faisons chaque semaine, avec un agenda exhaustif, beaucoup d'actu sur plein de sujets différents et le travail en ce qui concerne Montpellier de 12 journalistes professionnels.
La Gazette, ce sont 15 000 exemplaires chaque semaine, c'est tout à fait honorable.
Tout à fait. En fait, on a la chance d'avoir une diffusion qui se maintient malgré toutes les crises qu'on a traversées, le Covid, l'inflation, le coût du papier. La diffusion se maintient. En revanche, là où c'est plus difficile pour nous, c'est le marché publicitaire. Hein, je vous le cache pas, les recettes publicitaires se sont baissées, notamment à cause de la crise dans l'immobilier. Donc, on essaye de se renouveler, de trouver d'autres annonceurs et puis de faire au mieux notre travail de journaliste pour que le lecteur soit toujours présent.
Est-ce que vous avez un appel à lancer pour celles et ceux qui voudraient devenir sociétaires ? À quoi ça sert, si j'ose dire, de devenir sociétaire de la Gazette ?
C'est un engagement pour l'indépendance de la presse locale. C'est un engagement pour que le titre se maintienne. Et voilà, donc on recrute des souscripteurs. On en a déjà une trentaine de lecteurs qui sont intéressés, une quinzaine de salariés qui se mobilisent pour faire vivre le projet.
Est-ce que vous avez en tête un numéro particulièrement marquant de la Gazette de Montpellier ?
L'année dernière, on s'est installé dans le quartier de la Paillade, qui est un quartier populaire dans l'ouest montpellierain, qui est un QPV, un quartier prioritaire de la politique de la ville, avec un taux de chômage assez important. On s'est installé pendant une semaine, on a fait un numéro spécial sur ce quartier pour mettre en valeur des portraits de gens qui font vivre le quartier, des belles initiatives. On a essayé d'être très, très positif, hein, et c'était super parce que nous, on est un peu dans le petit écrin de la comédie à Montpellier, donc on ne se rend pas forcément compte de cette réalité-là, sauf quand on part en reportage évidemment, mais là, de s'être immergé dans le quartier, c'était vraiment une expérience assez unique et on aimerait bien le refaire dans d'autres quartiers de Montpellier.
Merci beaucoup Mélanie Bulan.
Merci à vous.
Rédactrice en chef de la Gazette de Montpellier. Bonne journée.
Bonne journée.
J'ouvre la boîte mail des carnets de campagne. Vous nous avez signalé des initiatives dans l'Hérault. Voici le message de Geneviève. Je suis la secrétaire de Entre ciel et mer, une association qui va bientôt fêter ses 10 ans et qui accompagne les femmes ayant subi un cancer du sein. Nous leur proposons des séjours en mer de 3 jours sur un bateau à voile pour reprendre le cap de la vie après la tempête du cancer. Il s'agit de briser l'isolement, car la maladie éloigne, mais l'équipage unit. De reprendre une activité physique, manœuvrer un voilier, c'est du sport et c'est du partage. De retrouver un avenir aussi. La mer inspire, apaise et redonne de l'énergie pour se réinventer. Cette année, 50 femmes vivront nos séjours voile santé et auront repris confiance en elles. Sans votre soutien, nous restons à quai, conclut cette auditrice. Entre ciel et mer, association basée à Saint-Jean-de-Védas, à côté de Montpellier. Autre message, celui de Frédéric. Je connais une personne géniale dans l'Hérault, écrit cette auditrice. Elle s'appelle Sandrine Doll. Elle est designer, fondatrice de la marque À l'Infini. Elle pratique l'upcycling et transforme des ceintures de sécurité en accessoires fabriqués en Occitanie. Des porte-monnaies, des trousses, des coussins, des sacs à dos. Le tout fabriqué donc à partir de ceintures de sécurité de voiture qui étaient destinées à la poubelle et d'autres déchets textiles qui deviennent de la haute couture. À l'infini, en un seul mot, c'est à l'Odève. Vous trouverez des liens sur notre site pour plus d'infos sur ces deux initiatives. Et je vous signale que la Marne et l'Aube sont bientôt à l'honneur du côté de Châlons en Champagne et de Troyes. Donc, vos messages sont les bienvenus pour signaler des projets réjouissants dans ces deux départements, la Marne et l'Aube.
France Inter, carnet de campagne.
Donner les objets ou les meubles dont on ne se sert plus, c'est bien. Mais si ce don peut rapporter de l'argent à une association, au passage, c'est encore mieux. Voilà l'idée portée par une entreprise basée dans l'Hérault qui a créé une application baptisée Kowa, avec deux A. Bonjour Julien Roch.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes le cofondateur de cette entreprise qui est basée à Saint-Gély-du-Fesc, pas loin de Montpellier. Ça veut dire quoi, Kowa ?
Kowa, c'est un mot qui en japonais signifie coopération en harmonie. Voilà. Et puis c'est un nom qui sonne bien pour évoquer l'aspect communautaire de cette application.
L'application d'ailleurs s'appelait Trocœur, comme un troc qui a du cœur, mais vous avez changé de nom. Pourquoi ce changement ?
Parce que d'abord, il évoquait pas assez l'aspect communautaire et le mot troc avec le R à la suite posait des problèmes. Il y avait beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à le prononcer, même des gens avec qui on échangeait régulièrement qui nous disaient trocre ou trocker et voilà.
Bon, comment ça marche alors concrètement ?
Alors, c'est une plateforme qui permet aux gens de donner, mais pas pour rien. Voilà, on est généreux, mais pas pour rien. Car cette fois, quand je donne un objet sur cette plateforme, celui ou celle qui vient le récupérer doit donner un montant libre en échange. Alors, on donne ce qu'on veut à partir d'un euro, ou ce qu'on peut surtout. Et cet argent, il sera reversé de ma part, moi, le donneur de l'objet, à l'association de mon choix, ce qui permettra en plus de déduire de mes impôts une partie de la valeur de mon objet. C'est comme si vous alliez sur une plateforme de vente d'objets avec la décision de redonner l'argent de la vente à l'association au final.
Donc c'est bien la personne qui récupère l'objet qui va faire le don d'argent, mais elle le fera au nom de la personne qui a donné l'objet.
Exactement. On a réussi non seulement à stimuler l'économie circulaire locale, mais en plus on a réussi à favoriser l'accès à la culture pour les jeunes, puisque la dernière collecte a permis d'amener plus de 80 jeunes au cinéma, en finançant des places de cinéma. Il y a une collecte aussi qui a permis de financer des sorties scolaires pour aider les enseignants à boucler leur budget. Et donc c'est ça qui est bien, parce que le don d'objets a permis l'accès à la culture pour les jeunes. Voilà. Et puis il faut préciser qu'il n'y a pas de publicité, pas d'arnaque, que c'est gratuit, qu'il n'y a pas d'abonnement et que ça prend à peine 4 secondes pour publier une annonce.
Votre actualité récente, Julien, chez Kowa, c'est un contrat signé avec Nîmes Métropole. Que vient faire une collectivité dans cette histoire ?
Eh bien, ce sont justement les collectivités qui doivent proposer aux citoyens cette solution qui est à la fois responsable et généreuse pour assurer la transition écologique. On vend la licence, on propose par exemple à Nîmes de proposer à tous les citoyens gratuitement cette application pour prendre en photo leurs objets, pour les échanger, pour récupérer des objets, pour soutenir les collectes éco-solidaires, pour se tenir informé, parce qu'il y a aussi un canal d'information pratique. Et on va proposer cette solution à toutes les métropoles et agglomérations et communautés de communes de France. Et Nîmes a choisi de déployer la solution. Alors, ça fait maintenant un an et demi qu'on travaille là-dessus et ce sera dans quelques semaines.
Ces partenariats avec les collectivités, pour vous, c'est une manière aussi de financer la démarche ?
Oui, exactement. En fait, pour que l'application soit entièrement gratuite et pour qu'on puisse reverser l'intégralité des dons, on propose aux collectivités territoriales de payer une licence. Et puis nous, on s'occupe de la partie technique, on s'occupe de la gestion des annonces, voilà, on s'occupe de tout en fait. Et simplement, pour la collectivité, c'est intéressant parce qu'elle va pouvoir favoriser l'économie circulaire locale et puis elle va aussi favoriser l'action et la solidarité locale. Et puis c'est aussi notre façon à nous d'envisager la transition écologique. On pense que la réciprocité des échanges, c'est indispensable. On pense que donner, recevoir et rendre, c'est important. Et c'est pour ça qu'on a fait cette application, pour encourager le plus grand nombre à se débarrasser de ces objets qui traînent, qui pourraient servir à d'autres. Et puis tout en générant, en créant des opportunités de financement pour les associations qui en ont bien besoin.
Voilà, ça s'appelle Kowa, ça s'écrit avec un K, un W et deux A, et c'est donc une application gratuite. Merci beaucoup Julien Roch.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.